le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour et bienvenue dans ce service protestant sur France Culture en ce dimanche matin. Aujourd'hui, nous recevons le pasteur David Brown, chargé de mission pour le projet Mosaïque en Île-de-France, pour la Fédération protestante de France. Et c'est donc pour le lien entre les églises protestantes issues de l'immigration. Il nous propose une méditation intitulée « Être en Christ ».
Je suis heureux de pouvoir partager ce culte avec vous. Que Dieu bénisse nos efforts pour sa gloire. Pour nous, c'est vécu comme un privilège de louer le Seigneur. Voici un passage des psaumes qui nous amène à la louange. Chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau. Chantez en l'honneur de l'Éternel, habitant de la terre. Chantez en l'honneur de l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Apportez-lui des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, habitants de toute la terre. Que le ciel se réjouisse, que la terre soit dans l'allégresse. Je vous invite à une prière de louange. Nous te louons, notre Seigneur et notre Dieu. Nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Père. Le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur. Nous ne cherchons ni la joie, ni la paix, ni même la bénédiction. Nous te cherchons. Conduis-nous pendant ces moments de culte. Amen.
Dieu créateur de la terre et des cieux, nous contemplons ton ouvrage. Tu as voulu que les hommes en tout lieu découvrent ton vrai visage. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartiennent à jamais.
Le Seigneur est devant nous avec ses bras ouverts, prêt à accueillir nos peines, nos douleurs, nos souffrances et même nos maux de confession. Si nous confessons nos manquements, ce qui demande beaucoup d'humilité et de courage, il est fidèle, juste et nous pardonne. En Jérémie chapitre 9, le Seigneur nous dit que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir l'intelligence de me connaître, de savoir que je suis le Seigneur. Je vous encourage à prier avec moi. Seigneur, voici notre prière. Accorde-nous la grâce de savoir que tu es Seigneur. Nous te remettons nos vies, nos journées et nos occupations, notre travail et nos relations. Sois le Seigneur de nos vies. Nous te remettons nos pensées, nos sentiments et nos rancunes, nos désirs et nos amertumes. Sois le Seigneur de nos pensées. Nous te remettons notre foi, notre prière et notre témoignage, notre vie intérieure, notre pèlerinage. Sois le Seigneur de notre foi. Amen.
Venez à la croix, le pardon est là, plongé dans le flot du sang de l'agneau.
L'amour de Dieu est infini pour nous. L'amour de Dieu est inconditionnel. Dieu est à nos côtés, bienveillant, et nous apporte son soutien. Il nous pardonne nos fautes. Dans les psaumes, nous lisons un beau passage qui parle de ce que Dieu est pour nous. Le Seigneur est compatissant, et il fait grâce. Il est lent à la colère et riche en bienveillance. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous rétribue pas selon nos fautes. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bienveillance est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il est loin de nous nos offenses. Comme un père a compassion de ses fils, le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Que la compassion et la bienveillance du Seigneur soient avec nous tous.
Changement, ton amour est un roc solide sous mes pieds. Ton amour mystérieux me protège en tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter. Alléluia, alléluia, alléluia. Ton amour est là.
Je ne crois pas que Dieu me réduise à l'esclavage de la parole et de la loi, mais je crois qu'il me libère. Je ne crois pas que Dieu a voulu faire de moi une poupée gonflable ou une marionnette, mais je crois qu'il a voulu faire de moi Adam, un être libre, responsable de ses actes, un être libre de choisir entre obéissance et désobéissance. Je ne crois pas que Dieu se tienne loin de moi, quelque part dans le ciel, mais je crois qu'il s'est approché de moi, qu'il s'est abaissé, est devenu homme, et qu'il partage mes joies et mes souffrances. Je ne crois pas que Dieu me manipule, mais je crois qu'il m'aime. Je crois en un Dieu qui exige de moi que je n'adore pas d'autres dieux et que je manifeste par ma vie tout ce que j'ai reçu de lui. Je crois que la relation que j'ai avec mon Dieu est unique, indiscutable et impossible à garder pour moi. Amen. À la fondation de notre foi est la parole. Dans sa lettre aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul souligne l'importance de la parole. Quand vous avez reçu la parole de Dieu, vous l'avez accueillie non comme une parole d'homme, mais comme ce qu'elle est réellement, la parole de Dieu qui agit en nous, qui croyez. Je vous invite à la prière. Au moment où nous allons ouvrir l'Écriture, accorde-nous d'y trouver, non pas un discours bavard, mais une parole qui ait du poids, une parole qui nourrisse notre foi, une parole qui éclaire nos choix, une parole qui porte nos combats. Seigneur, éclaire-nous. Si ton royaume est caché dans l'Écriture, accorde-nous la grâce d'entendre la parole, d'étudier la parole, de creuser la parole, de marcher la parole, de respirer la parole. Que maintenant ton esprit éclaire notre esprit. Amen. Aujourd'hui, on a le privilège de réfléchir à un passage qui se trouve dans la lettre de Paul aux Colossiens. Colossiens chapitre 2, versets 11 à 14. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts, par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Qu'est-ce que la lettre aux Colossiens? Colosse était une ville de la province de Phrygie, en Asie mineure. L'apôtre Épaphras y avait fondé une église. Ils viennent voir l'apôtre Paul pour lui exprimer ses craintes sur les pratiques religieuses des Colossiens qui les éloignaient du Christ. La lettre aux Colossiens, écrite par Paul en 60-61 après Jésus-Christ, vient donc en réponse à cette visite d'Épaphras. C'est à la fois un avertissement contre les fausses doctrines et une volonté de donner un cadre bienveillant à cette nouvelle Église. La lettre est comme un mini-cours d'éthique qui parle de chaque aspect de la vie chrétienne. Au début du passage d'aujourd'hui, Paul parle de l'idée d'être en Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus est là au cœur de nos vies. On sent sa présence à chaque instant et sa puissance se manifeste à travers nos vies. Il est en nous et nos vies sont à lui, en lui. C'est quand nous sommes totalement consacrés à Jésus, quand tous les aspects de nos vies lui sont confiés, que nous sommes véritablement en Christ. C'est un privilège, un miracle. Dans sa lettre aux Éphésiens, Paul dit, « Nous sommes en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. » Être en Christ, c'est d'être en action pour lui et sa création. Ce n'est donc pas juste être, mais agir. Comment agir? Dieu nous appelle à être sa lumière dans un monde de ténèbres, à être son amour en face de la haine, à être son porte-parole pour annoncer la bonne nouvelle. Dans l'évangile de Luc, Jésus dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » C'est une expression de la mission de Jésus, et en lui, c'est la nôtre. Il y avait ceux de l'église de Colosse qui faisaient comme condition au salut la circoncision. Cet acte a été exigé par Dieu dans l'Ancien Testament pour marquer, pour distinguer son peuple juif. L'apôtre Paul veut réfuter ce mouvement. La venue de Jésus a tout bouleversé. Un peuple élu est devenu un peuple élargi. La porte est maintenant ouverte à tous. Paul parle du nouvel espace de circoncision qu'il appelle la circoncision du Christ. Une transformation spirituelle du cœur, de l'âme. Étant ainsi transformés, on a une nouvelle vie, une nouvelle citoyenneté, celle du ciel. On est marqué pour le Christ. Nos priorités changent, notre point de vue du monde change. Ce n'est plus l'apparence qui compte, c'est ce qui est à l'intérieur. Ainsi, la première fois que j'ai rencontré ma femme Julie, j'ai été touché par sa beauté. Je ne voulais qu'être avec elle. Avec le temps, j'ai réalisé que sa beauté intérieure était plus extraordinaire que sa beauté extérieure. Quelle chance pour moi! Véritablement, ce n'est pas l'apparence qui compte. Ce sont nos actes qui comptent plus que nos mots. Nos actes fleurissent de notre foi qui imprègne chaque coin de nos vies. Paul, ensuite, parle du baptême comme une identification à l'ensevelissement de Jésus. Le baptême est considéré comme une illustration de la mort et de la résurrection du Seigneur. Pour nous, croyants, le baptême symbolise le fait que notre ancienne vie de péché est morte, est terminée et que nous sommes aussi ressuscités à une nouvelle vie de foi, de victoire, de paix, de joie, à une vie éternelle. Le baptême est un acte inclusif qui reflète les paroles de Paul dans sa lettre aux Galates. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. En Jésus, toutes les barrières sont enlevées. C'est par la foi que nous vivons cette résurrection. Encore dans la lettre aux Éphésiens, Paul dit, « Car c'est par la foi que nous vivons cette résurrection. » Encore dans la lettre aux Éphésiens, Paul dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Quel genre de foi? Une foi qui accueille simplement, sincèrement et de façon authentique ce cadeau de la part de Dieu. C'est cela la voie, le chemin qui amène au salut. C'est une foi en la puissance de Dieu. Un de mes amis m'a récemment demandé ce que cela veut dire, la puissance de Dieu. Pour expliquer, j'ai parlé de Nelson Mandela, emprisonné pendant 27 ans, qui ne gardait pas de rancune contre ses geôliers. De Gandhi, qui, en face de la haine des colonisateurs, ne répondait jamais avec la violence. De Martin Luther King, qui, mis en prison par les racistes d'Alabama, écrivait une extraordinaire lettre de paix et de non-violence. De Salahaddin, sultan d'Égypte et de la Syrie, qui, en 1187, en face de la barbarie des croisés, faisait grâce aux habitants de Jérusalem. Pour moi, ces exemples d'amour, de compassion et de pardon sont des exemples de ce qu'est la puissance de Dieu. Nous mettons notre confiance, notre foi, dans le Créateur de l'univers, le Dieu Tout-Puissant. Quelle puissance! La même puissance qui a ressuscité Jésus des morts est en nous, à travers notre Seigneur. Une compréhension de cette révélation nous encourage, nous inspire et nous donne de l'espoir. On n'a plus peur parce que le Dieu des dieux est avec nous à chaque instant. Il nous accompagne, il nous porte, il nous tient par la main. Paul dit encore aux Colossiens, « Vous qui étiez morts, il vous a rendu à la vie avec lui. » Pour ceux qui étaient sans espoir, sans vie, sans raison d'être, ceux qui ne savaient pas quel chemin prendre, qui vivaient dans les ténèbres, véritablement perdus, sans lien avec le divin, pour ceux-là qui étaient morts, il vous a rendu à la vie avec lui. Grâce à notre foi simple, sincère et authentique en Jésus, tout est devenu nouveau. On est passé, comme c'est écrit dans l'Évangile de Jean, de la mort à la vie. On a un sens divin de la vie. Il y a de la restauration, de la transformation dans cette nouvelle vie. D'une certaine manière, on est emmené au-delà de nos circonstances, de nos peines, de nos douleurs, de nos échecs, de nos souffrances. Il n'y a plus d'esprit de culpabilité en Christ. La culpabilité écrase l'esprit et l'âme. Selon Paul, Dieu nous fait grâce. Nos offenses sont effacées, éliminées. Quel amour inconditionnel, infini, divin. Quelle grâce. Nous venons de vivre l'Euro 2016. Au début du tournoi, chaque équipe s'est sentie capable de tout gagner. Les échecs du passé ont été oubliés pour recommencer à zéro, à nouveau. Même les fans, les supporters avaient un nouvel espoir. Au moins pour quelques minutes, la voie était claire et sans regret, sans bagage du passé. De la même façon, mais éternellement, en Jésus, tout est devenu nouveau. Tout est possible. On a confiance en Jésus pour réparer notre image cassée. C'est à nous d'embrasser, d'accueillir, de recevoir la nouvelle vie offerte. La mort du Seigneur sur la croix est la base du pardon de Dieu accordé pour le péché de l'homme. Son amour est pour chacun et chacune sans exception. Les questions qui surgissent devant nous aujourd'hui sont celles-ci. Est-ce qu'on est prêt à recevoir le don de la nouvelle vie, le don de la vie éternelle? Est-ce qu'on cherche à être libéré de nos chaînes? Est-ce qu'on veut être emmené de la mort à la vie? Comme un gland qui tombe de l'arbre, qui meurt, et qui, avec le temps, revit sous la forme d'un nouvel arbre, on peut chacun de nous trouver une nouvelle vie en Christ. C'est une expérience belle, bonne et enrichissante de prier les uns pour les autres, d'intercéder auprès du Père pour ceux qui souffrent. Seigneur, nous te prions pour ton Église tout entière, qu'elle soit pleinement soumise au Christ qui a donné sa vie pour le salut du monde. Accueille notre prière. Nous te prions pour tous les chrétiens, que chaque jour, ils accueillent dans leur vie ce qui est digne de Jésus. Accueille notre prière. Nous te prions pour notre paroisse, que sa fidélité, son courage et son zèle répondent à ton amour pour elle. Accueille notre prière. Nous te prions pour les malades et ceux qui pleurent, qu'ils découvrent que le Christ est proche d'eux et trouvent en lui patience et espérance. Accueille notre prière. Nous te prions pour le monde, qu'il voit dans la croix de Christ le chemin du salut. Accueille notre prière.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père qui est dans les cieux.
Terminé sur temps de culte, on lit ces passages extraits des lettres de l'apôtre Paul, destinés aux Philippiens et aux Corinthiens. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous.
Ainsi s'achève ce service protestant avec le pasteur David Brown, chargé de mission pour le projet Mosaïque en Île-de-France pour la Fédération protestante de France. Merci à Viviane Noël pour la réalisation, à Benjamin Vignal pour la prise de son de ce service protestant proposé par Michel Schaeffer pour la Fédération protestante de France. Sachez que vous pouvez recevoir le texte de cette émission par courrier en écrivant au service radio de la Fédération protestante de France au 47 rue de Clichy, 75 009 Paris. Et vous retrouvez bien sûr cette émission avec son texte sur les sites franceculture.fr ou protestant.org. Très bonne matinée à vous tous à l'écoute de France Culture. Le journal à suivre dans un instant, puis retrouver Marc-Alain Wachnin pour Talmudic. Bon dimanche.